4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, après la prise de la ville de Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, la situation s'est calmée. Le soulagement des habitants, vous l'entendrez. Dans ce journal également, Israël reporte son retrait du Liban. Selon l'accord de cessez-le-feu, l'État hébreu doit pourtant se retirer d'ici mardi. On fait le point dans ce journal. Réunion d'urgence des Européens à Paris pour faire face à l'accélération de l'administration américaine sur le dossier ukrainien. Le Premier ministre britannique Keir Starmer appelle à une montée en puissance des Européens sur les questions de défense et de sécurité. Puis en fin de journal, le budget de la sécurité sociale adopté après le vote du Sénat en France, la fin d'une séquence politique qui remonte à l'été dernier. Dans l'est de la République démocratique du Congo, après la prise de la ville de Bukavu ce week-end par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, la situation était relativement calme lundi dans la capitale de la province du Sud Kivu. Il n'y a pas eu de réel combat comme à Goma. Lundi matin, les habitants de Bukavu ont commencé à sortir de chez eux, comme en témoigne Josué Kayeye, un acteur de la société civile de Bukavu. Il se dit soulagé au micro d'Alexandra Branjon.
Nous nous réjouissons d'abord du fait qu'il y a eu de la calmie relative et aussi qu'il n'y a pas eu de morts enregistrées. Tôt le matin, nous avons eu à sortir dehors. Nous avons observé l'engouement des gens, de la population locale qui a pu circuler. Et du coup, il y a eu la circulation du transport en commun. Et les habitants sont sortis pour se ravitailler parce qu'il y avait déjà des petits marchés qui ont ouvert. Par exemple, il y a vers l'hôpital général avec timidité, bien sûr. Même les particuliers n'ont pas encore ouvert, les restaurants, les terrasses n'ont pas encore ouvert comme tel. Il y a encore un peu de réserve pour ouvrir des grandes portes, des grandes boutiques et des grands magasins. Donc dans la ville, il y a eu au moins de l'engouement pour se ravitailler, pour se saluer, pour sortir et pour observer ce qui se passe. En tout cas, l'ambiance est un peu timide, mais au moins elle était rassurante pour l'instant.
Un couloir humanitaire est désormais ouvert dans l'est du pays. Il va permettre l'acheminement d'aide humanitaire à Goma. Le retrait total des forces israéliennes du Liban à nouveau reporté. Après 2 mois de guerre au Liban, le cessez-le-feu signé en novembre dernier prévoyait un retrait de l'armée israélienne dans les 60 jours. Le délai a ensuite été prolongé au 18 février. Mais l'armée israélienne a annoncé maintenir sa présence dans 5 points stratégiques au Liban. Oriane Verdier.
Le porte-parole de l'armée israélienne affirme que les forces libanaises ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité dans le sud du Liban et surtout d'éviter une résurgence du Hezbollah à la frontière. Un petit nombre de soldats israéliens déployés sur 5 points stratégiques du côté libanais de cette frontière resteront donc en poste dans le but de protéger la population israélienne de la menace du Hezbollah, a annoncé hier le porte-parole de l'armée israélienne. Il affirme que cette décision a été prise en accord avec le comité en charge de faire appliquer le cessez-le-feu. Le comité est dirigé par les États-Unis, nous sommes en échange constant avec eux, développe-t-il. De son côté, le président libanais a appelé hier les pays garants de la trêve de sommer Israël de retirer toutes ses troupes et de libérer les prisonniers, comme le prévoyait l'accord. L'armée israélienne mène quotidiennement des opérations de dynamitage de bâtiments à la frontière et des frappes à travers tout le pays. Selon l'ONG Human Rights Watch, la démolition délibérée par Israël de maisons et d'infrastructures civiles rend impossible le retour pour de nombreux habitants dans les zones frontalières.
Le président libanais Joseph Aoun appelle donc les États-Unis et la France à faire pression sur Israël. Réunion de crise des Européens à Paris pour aborder la guerre en Ukraine, tandis que Donald Trump veut négocier seul avec Vladimir Poutine. Une dizaine de pays européens étaient conviés, ainsi que les dirigeants de l'OTAN, de la Commission européenne et du Conseil européen. À l'arrivée, pas de déclaration commune ni d'annonce concrète, mais un constat, celui d'une nécessaire montée en puissance des Européens sur les questions de défense et de sécurité. On écoute la déclaration de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, à l'issue de la réunion.
Les récentes déclarations de l'administration américaine ne devraient pas nous surprendre. Le président Trump exprime depuis longtemps le souhait que l'Europe réponde aux exigences de sa propre sécurité. La réunion d'aujourd'hui était donc un premier pas essentiel pour répondre à ce défi. En matière de défense, il est clair que les États-Unis ne quitteront pas l'OTAN. Mais nous, Européens, devons en faire plus. Cette question du partage du fardeau n'est pas nouvelle, mais elle est désormais pressante et les Européens devront augmenter leurs dépenses et leurs capacités de défense. En ce qui concerne l'Ukraine, l'Europe doit jouer son rôle et je suis prêt à engager des forces britanniques sur le terrain aux côtés d'autres pays si un accord de paix durable est conclu. Mais il doit y avoir une garantie de sécurité américaine car c'est le seul moyen de dissuader efficacement la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine.
Les mots du Premier ministre britannique Keir Starmer. Tandis que l'Europe veut faire bloc, les États-Unis et la Russie ont confirmé la tenue d'une réunion ce mardi à Riyad. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio va rencontrer Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a annoncé son arrivée en Turquie pour rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan, ajoute que l'Ukraine ne reconnaîtra aucun accord s'il est conclu sans elle. De son côté, le président français Emmanuel Macron a fait savoir qu'il s'était entretenu avec Donald Trump ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky. Il a déclaré sur le réseau social X que tout accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine devait s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens. En Argentine, la justice saisit sur la crypto-monnaie promue par Javier Milei. Le président argentin avait exprimé sur X son appui à une crypto-monnaie supposée financer des PME argentines avant de se rétracter quelques heures plus tard. La crypto-monnaie Libra a généré pour quelques opérateurs des gains autour de 100 millions de dollars avant de s'effondrer, ce qui a engendré une vague de plaintes. De son côté, Javier Milei nie avoir promu une crypto-monnaie et affirme avoir agi de bonne foi. Alors que Donald Trump cherche à chasser du territoire américain les migrants en situation irrégulière, le Costa Rica s'aligne sur la position du Panama et du Guatemala voisins en annonçant son accord pour servir de plateforme pour réceptionner des migrants expulsés des États-Unis. Un premier contingent arrivera mercredi à San José à bord d'un vol commercial. Les passagers seront ensuite transférés dans un centre d'accueil temporaire à plus de 300 km de la capitale. En France, la séquence du budget 2025, enfin achevée après celui de l'État, le budget de la sécurité sociale a en effet été adopté définitivement après le vote du Sénat ce lundi. La fin d'une interminable et inédite séquence politique qui remonte à l'été dernier. Victorien Villaume.
Août 2024, la France a un gouvernement démissionnaire et le mot budget commence à apparaître avec des articles qui racontent le retard déjà pris dans sa construction. La gauche dénonce un manque de transparence et un budget austéritaire en préparation. Marine Tondelier.
On nous parle de 2 milliards d'euros en moins pour les hôpitaux en 2025.
Octobre, Michel Barnier, nommé Premier ministre, présente sa copie du budget 60 milliards d'économies.
Il y aura un effort général à faire.
Oui, mais voilà, il ne cherche pas à tout prix un accord de non-censure avec la gauche et à la place réajuste sa copie progressivement en annonçant des concessions à l'extrême droite. Sa stratégie échoue. À 3 semaines de la fin d'année, le RN joint quand même ses voix à la gauche. Le gouvernement Barnier tombe, le budget avec. Yaël Braun-Pivet.
La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée.
Janvier 2025, François Bayrou arrive aux manettes. Le centriste, lui, essaye rapidement d'assurer à son gouvernement la survie grâce au PS et la démarche finit par aboutir. Olivier Faure.
Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire.
C'est la clé qui permet de clore une séquence politique qui aura duré plus de 7 mois au total.
Le Premier ministre François Bayrou, sous pression, un avocat réclame une enquête pour entrave à la justice dans l'affaire de viol survenue en 1998 au sein de l'établissement de Bétaram. Ce dimanche sur TF1, un gendarme chargé de l'enquête avait évoqué une intervention de François Bayrou auprès du procureur de Pau à l'époque. Le Premier ministre, dont les enfants ont fréquenté l'établissement, dément. Samedi, celui qui était à l'époque ministre de l'Éducation a rencontré les victimes et promis des moyens supplémentaires. « Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit », les mots de Mehdi Nemmouche ce lundi matin, premier jour du procès des geôliers présumés du groupe État islamique à Paris. L'homme de 39 ans est accusé d'avoir été le geôlier de 4 journalistes français détenus depuis pendant près d'un an en 2013 par le groupe djihadiste État islamique en Syrie. L'hospitalisation du pape François prolongée, le souverain pontife âgé de 88 ans souffre d'une infection des voies respiratoires. Le Vatican affirme que son état est stable, cela fait 4 jours qu'il est hospitalisé. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir écouté.